Bonjour et bienvenue à cette émission de Radio Linguistica, Vive la radio, regard en arrière sur 5 ans de Radio DGT. En effet, c'est une émission particulière, même un petit peu triste, parce que malheureusement, Catherine Vieille-Dent, Montfort, notre chère collègue, va nous quitter le 1er avril. Malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Elle va nous quitter vraiment. Elle partira à sa retraite bien méritée. Et à nous, ça donne la raison, l'occasion de jeter un coup de deuil en arrière à 5 ans de Radio DGT. Et je retrouvais un dinosaure de la radio DGT, Sauro Orsini. Bienvenue et bonjour.
Bonjour, merci pour le dinosaure, mais voilà, je suis là.
Eh bien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu des débuts de cette radio DGT ?
Oui, la radio, comme on l'appelait, est née par un concours d'idées, des circonstances, un bon mix de, je dirais, de sérieux et des folies aussi. À la DGT, nous occupions à ce moment-là de monter la DGT Academy, un programme ou une série de programmes structurés pour soutenir la formation continue de nos traducteurs. Et la formation dans les domaines économiques nous occupait particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on avait constaté que les traducteurs disposaient déjà d'une bonne formation des bases et que toute formation des bases, de toute manière qu'on aurait voulu leur proposer, finalement n'aurait quand même permis d'atteindre ce niveau de compétences qui les rend capables de comprendre certains menus détails, situations, problématiques discutées et dont la traduction documentaire, je dirais, elle devait traiter. Il fallait quelque chose d'autre, une sorte d'initiative continue qui leur met à contact avec les problématiques les plus actuelles, en connaître les langages, en connaître les implications et les contextualiser. Et alors j'avais eu cette idée de faire justement une sorte de radio, des brèves émissions à thème. Et j'ai pensé à ce moment-là à une émission de la radio italienne qui se tient encore, qui se fait encore, et qui s'appelle Prima Pagina. C'est au matin, à 7h30, un journaliste lit les premières pages des quotidiens, des journaux du matin, et il les présente, il les commente, et après il ouvre un dialogue avec le public qui téléphone à la rédaction ou qui écrit, pose des questions, commente, etc. Je me disais, tiens, faudrait quelque chose du genre, peut-être ça pourrait marcher. Et j'en avais parlé à ce moment-là à Pep Bonnet et à Ildiko Faber, qui s'étaient montrés très possibilistes. Ils étaient très visionnaires, ils avaient envie de regarder, trouver quelque chose d'autre. Et alors j'avais commencé à élaborer là-dessus. Et là, j'ai un repère temporel précis. Le soir de la remise des médailles des 20 ans de service à la Commission, j'avais parlé avec deux amis économistes de cela, en leur disant « Est-ce que vous pourriez me suggérer quelqu'un qui serait adapté comme invité à venir nous aider sur un bon journaliste avec une bonne culture, capable de voir aussi les aspects plus psychologiques, plus historiques, plus éthiques des questions économiques, avec une vue large ?» Le genre de vue dont nos traducteurs ont besoin. Il m'avait indiqué quelques noms et des fils à aiguille. Voilà, on a trouvé quelqu'un capable de nous aider. Et la première fut Sarah Collins, une journaliste irlandaise qui travaillait ici à Bruxelles et qui nous a aidés à monter, peaufiner les formats. Et ce fut en novembre 2015 que fut possible d'avoir une première émission de test. Et suivi 15 jours après par la première vraie émission. Et Une partie de la petite histoire concerne le nom. Il fallait un nom pour cette radio. Et on voulait éviter l'anglais et on voulait éviter les français parce que c'était toujours ça. Et on cherchait en même temps quelque chose de simple à prononcer sans des complications orthographiques et que ce soit quelque chose aussi d'un peu auto-ironique. Alors on avait commencé. Des noms très, très, très clairs, très syllabiques, avec beaucoup de cas où ça fait toujours bizarre. Et on était arrivé sur cette radio économique qui résonnait un peu comme en espéranto, comme ça, c'était bon pour tout le monde. On avait commencé à aborder là-dessus et à inventer toutes sortes de radios possibles à côté de la radio économique. Hein. Et ben voilà, mais la radio économique a fut le tout premier produit de la radio.
D'ailleurs,
ceci est la petite histoire de la naissance, oui.
Oui, d'ailleurs, si je me rappelle bien, la première émission traitait de l'économie de l'Iran, ce qui lie le titre un petit peu à l'inventeur de la radio, un pionnier de la radio, il y a 120 ans, et qui décorait à l'époque, dont la tête et les machines décoraient à l'époque le billet de 2000 lire, c'était donc Marconi. Alors, raconte un petit peu comment la Marconi était liée à l'Irlande.
Oui, ça c'est une série de coïncidences un peu drôles à nouveau. Donc, Marconi, qui était italien et qui était de Bologne, donc de ma ville, et par ailleurs, j'ai raconté à Conrad, j'habite rue Marconi, vraiment toute une série de coïncidences. Marconi avait une mère irlandaise et dont il parlait le dialecte de la ville, et il parlait l'italien et il parlait l'anglais. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas nombreux, ceux qui pouvaient avoir déjà deux langues et l'anglais dans leur fourreau. Et quand ces premiers brevets autour de la radio furent refusés par l'Italie, il le proposa à la marine italienne, tout simplement, encore très jeune, comme il parlait l'anglais, il migra dans le Royaume-Uni. Là, il fonda la Marconi Company. Et là, la véritable histoire de la radio, l'histoire entrepreneuriale de la radio, commença au Royaume-Uni et non pas à Bologne. Et donc, c'est aussi un peu particulier qu'au moment où nous, à la DGT, nous fondions notre DGT, la personne, l'expert en communication dont on avait pu se jeter les services, c'était une journaliste irlandaise qui doit avoir pensé à plusieurs moments que nous étions un peu fous avec notre programme, mais elle fut exemplaire et vraiment beaucoup.
Eh bien, on a commencé nos émissions en présentiel, en invitant nos partenaires à notre palais du nom poétique G12. Peut-être Catherine, tu te rappelles de nos débuts à la radio?
Oui, c'était effectivement l'époque. Alors bonjour d'abord. C'était l'époque où on avait des salles de vidéoconférence qu'on utilisait comme des studios. Donc c'était pas forcément idéal, mais nous avions au moins un espace et puis une très bonne qualité de production avec les habituelles aventures techniques qui font partie plutôt de la dimension un peu douloureuse de la radio, c'est-à-dire la technique est quelque chose d'aléatoire, ça a parfois des côtés magiques, ne cachons pas la réalité, mais extrêmement aléatoire et peu contrôlable. Cette époque-là, elle s'est révolue le 13 mars 2020, qui était la date où la décision a été prise de confiner, c'est-à-dire de demander à tout le monde de retourner en télétravail chez lui. Et c'était la dernière date de production d'une émission avec une collègue de la DG Régio. Et immédiatement après. Bon, à l'époque, j'étais seule pour gérer les deux radios. On a rebondi sur la plateforme la plus répandue à l'époque, qui était Zoom, et que j'avais eu l'occasion d'expérimenter peut-être une semaine avant pour des activités associatives. Miracle, on pouvait effectivement continuer la production, et c'est ce qu'on a fait donc depuis mars 2020, avec les aventures. Un souvenir un peu compliqué, c'était une émission sur les terminologues occupés à fournir de la terminologie sur le Covid. Et ça, c'était donc, mettons, en juin 2020, avec une terminologue du Conseil, une autre terminologue qui était à Luxembourg et une troisième qui était à Bruxelles. Et il a fallu, effectivement, constater deux fois qu'on n'y arrivait pas, deux échecs, et puis par un sursaut que je jugerais magnifique, je les ai remerciés lourdement d'ailleurs, on a refusé de terminer sur un échec et on a relancé une troisième tentative qui a finalement marché. Hourra ! Donc il fallait vraiment s'accrocher. C'est un peu la leçon de la radio aussi, quoi.
Eh bien, Sarah, tu te souviens certainement aussi de certains problèmes au début. Bon, à l'époque, c'était la technique, mais parfois aussi les incidences du trafic, parce que évidemment les gens devaient arriver à notre studio G12.
Ben oui, au début, on vivait tout avec une certaine fébrilité, et tout était nouveau et la technique n'était à point. Ensuite, on a commencé à s'en préoccuper beaucoup moins, hein, et à savoir jongler, improviser. Mais je me souviens des invités ou des journalistes bloqués dans le trafic, des émissions reportées de 10 minutes en 10 minutes en changeant cette petite diapo qu'on mettait en streaming pour qu'on les voit. Oui, je me souviens des petits problèmes de gestion sur la table du studio, comme on l'appelait, de l'ordinateur, de la mailbox dans laquelle on recevait les quelques questions et les quelques commentaires, la musique avec nos génériques d'entrée qui débuta bientôt, et c'est extrait d'un concert de Mozart pour clarinette. Il y avait toujours quelque chose qui s'est passé. La caméra qui nous encadrait, qui tombait, qui se mettait de côté, et donc voilà. Mais comme je disais au début, on était un peu formel dans nos essais. Ensuite, on a commencé à prendre tout à la légère. Et il y avait des situations aussi très amusant, et comme on était de toute manière encadré à une vidéo, et pendant qu'on faisait la radio, on voyait tout, on voyait les gestes qu'on se faisait sur la table pour se donner la parole, pour arrêter quelqu'un qui entrait dans la salle de réunion au mauvais moment, et on lui faisait des grands gestes et on le priait de se tenir en silence. Il y avait le verre d'eau qui s'est renversé sur la table, alors tout le monde levait ses notes. Il y avait un peu de tout, voilà, mais finalement ça devenait amusant aussi.
Bon, moi, j'ai commencé à la Radio Vatican, mes expériences de radio, et là, la technique était, bon, archéologique, certainement, mais à 100% fiable. C'est-à-dire, on avait des bandes et on coupait avec des ciseaux et on collait. Et rien ne pouvait se passer. Ça marchait à 100%. Et maintenant, avec cette technique du 20e siècle, 1e siècle, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise connexion ou d'un problème technique quelconque. Mais malgré cela, on a eu quand même pas mal des émissions très intéressantes, je trouve, des invités intéressants. Et peut-être, Catherine, tu peux nous raconter de quelques émissions qui t'ont marqué particulièrement.
Oui, alors peut-être pour rapidement expliquer, parce que chacun réinvente sa voie à inventer. Moi, j'ai un petit peu réinventé Radio Économica et Radio Linguistica avec cette idée qu'effectivement, nous étions à la Commission européenne et que bon, qu'en plus, en tant que DG traduction, on connaissait toutes les politiques. Donc, outre quelques journalistes qu'on invitait périodiquement sur la base d'une revue de presse, on a un petit peu invité tant des collègues que des responsables de politique, un commissaire, des directeurs généraux, des ambassadeurs. Donc véritablement montrer et donner à entendre des ambassadeurs de l'Europe en quelque sorte, et plus que des ambassadeurs, des gens qui étaient véritablement responsables de certaines initiatives, etc. Alors, un moment assez sympathique, ça a été effectivement l'interview de Bérangère Viénot, qui nous a apporté un témoignage que j'ai trouvé lumineux à partir d'un bref livre qu'elle avait publié sur son expérience de traductrice de presse, et en particulier donc assignée à la traduction du discours de Monsieur Trump. Elle avait à cette occasion témoigner de son désarroi et enfin, du dilemme auquel se trouvent confrontés les traducteurs face à un discours extrêmement agressif, parfois vulgaire, et donc le dilemme de est-ce que je suis fidèle? Elle avait raconté le célèbre épisode où Madame Macron était présente à une rencontre avec Monsieur Macron et il n'avait pas pu s'empêcher de dire waouh. Elle a l'air en forme, enfin, et on aurait pu traduire de manière encore beaucoup plus vulgaire l'approche assez utilitariste et consommatrice que pouvait dénoter l'intervention de Monsieur Trump. Donc ça avait été un moment que j'avais trouvé assez chouette.
Eh bien, Saro, tu peux peut-être nous présenter juste un ou deux exemples d'une émission dont tu avais été particulièrement fier, qui t'a marqué d'une façon ou d'une autre.
Mais je dirais j'ai quelques situations surtout dont je me souviens justement. Un jour, on s'est retrouvé d'un coup sans invité, avec un préavis d'une heure seulement. Et alors, je me souviens de cette émission inventée avec Pep Bonnet, qui visiblement s'amusait beaucoup, beaucoup plus encore que moi. Et on avait fait cela sur nos propres sources, les sources de nos propres petits savoirs économiques. Le livre que nous avions lu, les revues, les personnes qui nous racontaient l'économie de quelque manière, cela avait été vraiment tout complètement improvisé. Je me souviens une émission avec Bernard Baillot, qui est maintenant le président de Newbee, cette nouvelle banque éthique qui a grandi avec beaucoup d'enthousiasme ici en Belgique. Mais je me souviens aussi, si je peux, si je peux le rappeler maintenant, la première émission avec Catherine. Ça a été l'entrée des Catherine, qu'on parle beaucoup, surtout pour Catherine aujourd'hui, la première émission avec Catherine à la radio. Dont j'étais seul à conduire ce programme, j'ai senti que les idées finalement me manquaient. Il fallait que d'autres personnes s'y impliquent. Et j'ai commencé par ailleurs à douter de certaines de mes idées. Alors j'avais demandé à Pep s'il ne trouvait pas bien que j'implique Catherine, parce que je savais qu'elle avait des intérêts larges, une grande culture européenne, et je pensais qu'elle aurait pu vraiment faire beaucoup. Et c'était au mois de mai. Et alors j'ai invité Catherine à venir à une émission et à rester avec nous. Elle prit un peu l'initiative, je l'entendais, je la voyais vraiment à l'aise. Et en réécoutant ensuite l'émission, cette présence ne me frappe pas. En fait, je l'avais trouvée très Elle était calme, en contrôle, elle était posée, elle avait une belle voix, rythmée, variable, légèrement voilée, timbrée. C'était très particulière. Je me disais, tiens, c'est vraiment une voix radiophonique. Elle passait vraiment, vraiment très bien. Je me suis dit, je pense que la radio a vraiment trouvé sa voix. Et ensuite, Catherine est restée et elle a vite pris l'initiative et elle a élargi la gamme des intervenants, les thèmes. Je me souviens par ailleurs aussi certains débats qu'on avait eus à ce moment-là. Je voyais surtout, je restais très fidèle à l'idée de la radio comme un instrument très, très artisanal qui visait la formation continue des traducteurs. Elle avait le courage de donner une respiration, une recherche, une audace à cette initiative que je n'avais pas. Et voilà, je disais, Catherine est restée, et Conrad est arrivé, il me semble, un peu plus tard, au mois de septembre, octobre, avec la radio linguistique. Et voilà, la radio est ce qu'elle est maintenant parce que ils en ont fait une autre chose. Et là, j'ai vu par ailleurs que j'ai eu tort, mais mes visées initiales étaient probablement trop étroites pour le potentiel que la radio pouvait avoir. Et je suis bien content de me retrouver maintenant à le reconnaître tout ça 5 ans après les débuts.
Oui, pendant longtemps, Catherine a dû se battre toute seule. J'ai trouvé un petit dessin de ce fameux chat de Philippe Geluck qui dit moi, je suis le directeur, l'animateur et l'auditeur de la radio moi-même et je fais 100% d'audience. Bon, le premier, c'était vrai, Catherine a été la directrice, l'animatrice, mais évidemment, là, elle n'était pas à 100% d'audience parce qu'on a eu une audience assez grande. Peut-être, Catherine, tu peux fournir quelques chiffres ou quelques idées de notre audience.
Oui, j'aime bien le chat parce que c'est la version posée et tongue-in-cheek, comme disent nos amis anglais, de l'autoconviction trumpienne. Donc effectivement, le 100% d'audience avec soi-même, c'est pas exactement l'ambition de la radio de la DGT. On a quand même eu le souci d'aller utiliser des outils d'observation sur les plateformes. Et on a constaté, donc l'an dernier, hein, qui était une année particulière, mais puisqu'on n'a pas arrêté, et qu'on a publié, enfin on a sorti 51 émissions pour les deux radios, on a eu 15 000 visiteurs. Les visiteurs sont des gens qui viennent sur la page des podcasts. Alors je ne sais pas ce qu'ils y font de plus, mais il y en a quand même qui vont un peu plus loin et qui jouent, c'est-à-dire qui ouvrent le logiciel et qui écoutent. Et là, on en avait 1904, ce qui est quand même pas mal. Et enfin, il y en a même qui déchargent ça ou téléchargent ça. Et là, on en avait quelque chose comme 4000. Alors, cette plateforme magique produit ce suivi en quelque sorte de l'activité sur le site et nous sort même des cartes. Et alors là, c'est vraiment un choc. Ce n'était pas la première fois que je constatais ça, mais on se rend compte que la radio de la DGT a deux blocs d'auditeurs qui sont l'Europe, essentiellement la Belgique, ce n'est pas tout à fait surprenant, et puis un autre bloc qui sont les États-Unis. Alors, difficile d'affiner, moi je n'ai pas en tout cas les outils pour affiner, trouver exactement les endroits spécifiques, ce sont vraiment les deux blocs d'audience, ce qui veut dire que peut-être que ça intéresse, et je crois les questions linguistiques intéressent, il y avait clairement un auditoire pour ça, et la radio économique avec son profil politique européenne, jusque d'ailleurs en Ukraine et en Chine, ce qui m'a fait beaucoup rire. Donc là aussi, on peut s'interroger sur les relais d'opinion, de diffusion qu'on peut avoir, qu'on peut trouver. Et j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt Quentin Dickinson en août 2018, qui m'avait expliqué en une heure, en plein mois d'août, comment est-ce qu'on construit une radio ? Alors, comme un grand professionnel, puisqu'il avait été correspondant de Radio France pendant 15 ans, je crois, à Bruxelles, jusqu'à récemment, donc avec de la régularité, ce qui est une ambition extrêmement élevée, avec des relais d'opinion. Enfin, il nous avait un petit peu expliqué comment faire ça. Et ça avait été un repère. Donc, oui, alors, peut-être qu'il faut dire aussi que c'est un espace de libre parole. Je ne sais pas ce qu'en pense Sauro, mais la radio de la DGT, c'est un espace qui s'est toujours voulu informel, partager les connaissances, pas nécessairement avec, en rigolant tout le temps, mais quand même en parlant librement, à de rares exceptions près, même si un soupçon latent existe, surtout quand le fonctionnaire se risque à être quelque part, comme on l'encourage aussi par ailleurs, à être un peu un ambassadeur. Parce que libérer la parole, c'est aussi favoriser le lien, la réflexion, se définir un ensemble, un travail collectif. Donc, mais ça a été, les crises ouvertes étaient rares, malgré cette image que je reconnais bien la signature de notre ami Conrad.
Oui, je ne sais pas quelle a été l'expérience de Sauro, mais je me rappelle bien qu'il a eu parfois des malentendus, comme si la radio était perçue comme la voix de la DGT, ce qui c'était jamais l'ambition. Au contraire, c'était l'ambition d'entendre plusieurs points de vue différents. Alors, c'était l'opinion de notre invité, pas l'opinion de la GGT. La seule ambition, c'était de présenter quelque chose d'intéressant à nos auditeurs. Mais pas, nous ne sommes pas la propagande de la DGT, pas la voix officielle. Ça, c'était parfois difficile à expliquer. Je ne sais pas quelles étaient tes expériences, Sauro.
Ouais, tout à fait, c'est une chose qu'on s'était posée tant qu'on restait petit, informel, je dirais, avec cette habilité à pratiquer les espaces gris entre les susceptibilités, les pouvoirs. Tout était très beau. Et je me souviens, à un certain moment, les problèmes d'une certaine liberté des paroles c'est posé, mais je dirais, nous ne nous sommes pas trop gênés. Hein. D'abord, je me sentais pas mal soutenu par les responsables de l'unité, de l'EPARPE, et ils disent qu'à ce moment-là, mais nous savions aussi que les explications, les avis auraient bien circulé, auraient eu leur, comment dire, efficacité vivifiante si la parole était vraie et si les différences pouvaient être portées. Cela fut très évident dans la seule, probablement, la seule édition d'une autre petite radio qui avait commencé, la Radio Climatique. C'était en décembre, donc tout de suite après la naissance de la Radio Climatique. En décembre... un débat entre deux collègues, les deux actifs sur les questions climatiques, mais l'un qui portait une position un peu plus réformiste, un peu plus, je dirais, institutionnelle, et l'autre qui était, j'arrive pas à dire plus militant, mais presque, voilà. Et l'émission avait été vraiment très suivie, très appréciée. À certains moments, on s'était posé la question de trouver des voix, des journalistes qui capable d'être un peu plus percutante et par rapport à Sarah Jorge, qui était excellente, mais qui était toujours très équilibrée. On voulait aller chercher quelqu'un vraiment qui est capable de venir nous chercher, un peu comme on dit en français, dans nos retranchements. Et donc, Xavier Dupré est arrivé, un des signataires du manifeste des économistes atterrés, et Julien Collinet et Bernard Bayot ensuite. Donc voilà, finalement, nous avons aussi l'impression que cette relative liberté, bien gérée, somme toute, a été appréciée, quoi. A été appréciée. Je ne sais pas quelle est votre impression quand vous avez pris la relève, comment vous avez dû gérer ces aspects.
Oui, tout à fait. Et moi, pour l'avenir, je vais y réfléchir peut-être sur cette idée de radio climatique ou de retrouver de De gens qu'on a perdu un petit peu des yeux parce que maintenant on est de toute façon on est à distance et alors on pourra peut-être les appeler s'ils ne sont plus à Bruxelles. Évidemment, on a eu une grande diversité de l'audience était très diverse. Ça, c'est la mort d'ordre aujourd'hui, diversity. Mais le problème, on ne peut pas plaisir toujours à tous. Alors, on essaie de présenter une vaste gamme de sujets. Et moi, je suis convaincu que Catherine y est parvenue parfaitement. Et malheureusement, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Et maintenant, il faut nous dire au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, ciao à notre collègue Catherine qui, j'espère bien, va nous rester fidèle, au moins comme auditrice à la retraite. Mais elle, comme je la connais, sa retraite sera très active, extrêmement active. Alors je suis assez sûr qu'on pourra la réécouter un jour proche à cette antenne. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.